être signalés. Alors, le premier, c'est une anthologie de quelqu'un que vous connaissez bien, l'un et l'autre, qui est Pascal Comer. Pascal Comer, qui publie « D'Hélène qui éclaire », c'est son anthologie des textes de 1978 à 2009, c'est aux éditions Obsidiane et Le Temps qu'il fait, les analectes dans cette collection-là. Alors voici ce qu'il dit, l'ami Pascal Comer. « Tenter à certaines périodes de dresser au plus près inventaire de ce qui nous entoure et n'est riche que de son existence, banale, faut-il dire, triviale, mais concrète et cependant, en raison de cela, propre à infiltrer le poème d'éléments du réel rejetés d'ordinaire parce que provenant de la vie de tous les jours, et notamment du monde du travail, si peu présent en poésie, alors que demeure, y compris, surtout, dans les esprits formés naguère aux humanités, une manière d'emphase propre à tout ce qui touche à la terre, et n'imaginant pas qu'on puisse la loger dans des mots qui, prenant en compte rudoiement crevasses d'hiver aux doigts des saisonniers, font langue de ça, si ce n'est calte. À l'inverse, une lecture par trop distante et fortement médiatisée ne retient de la terre que sa fonction alimentaire, certes non négligeable. Qu'en est-il de ceux qui y vivent, de leur quotidien, appelés à vivre parmi eux, à partager au quotidien leurs soucis administratifs notamment? Me voici embarqué dans un mouvement qu'un geste d'écriture ramasse, sans autre projet immédiat, que prendre mesure au présent d'une ardeur ignorant tout d'elle-même. Voilà. Donc ce que dit Pascal Comer dans cette anthologie d'Hélène qui éclaire et qui est aux éditions Obsidiane Le Temps qu'il fait. Ça vous coûtera 28 euros et nous aurons l'occasion, bien sûr, d'en reparler ici même, de faire certainement une émission particulière, spéciale. Donc, Pascal Comer. Mais d'ores et déjà, je tenais à le signaler pour que ça figure en bonne place dans le futur compte rendu des émissions. Le deuxième volume dont je voulais parler, c'est notre ami Michel Cosem qui publie aux éditions Alcyone dans la collection Surya. L'encre des jours, donc une collection qu'a repris Sylvain Arabeau après les éditions de l'Atlantique, et il continue là, Michel Cosem, ce qu'il fait sur toute cette posture d'écriture vis-à-vis des lieux qu'il traverse, qu'il visite, ou dans lesquels il vit. Par exemple, la gare Matabiau à Toulouse, le pauvre vent sort tout humide de la rue Bayard. Il se heurte à l'immense gare, après avoir léché les façades roses aux fenêtres closes, et entre, malgré les mendiants, dans le hall des départs. Tous les trains sont à l'heure. Des moineaux picorent des miettes et se moquent des platanes qui se sont habillés après un hiver nu. Quelques nuages hésitent entre Atlantique et Méditerranée, mais veulent quitter l'ennui. Attention au départ. Gare Matabiau, Toulouse. Michel Cosem, L'encre des jours, édition Alcyone, 20 euros. Et puis, un événement, me semble-t-il, c'est ces excellentes émissions RS, la collection Poepsie, qui est animée par Daniel Faugeras, et qui publie, là, alors après avoir publié Malcolm de Chazal, Humour, Rose, et puis des poèmes tamouls de l'époque Sangam, la collection publie les poèmes d'amour de Marie Chico. Alors, de Kenneth Rex Roth, qui a vécu de 1905 à 1982, qui est essayiste, poète et traducteur, et qui fut l'un des premiers, dès les années 1930, à acclimater la poésie classique d'Extrême-Orient aux États-Unis. Donc c'est une démarche qui est tout à fait originale. Ses intérêts multiples et variés pour la littérature et les arts, sous-tendus par une culture universelle, alors cette culture elle est vraiment anti-académique et libertaire, lui ont valu d'être considéré comme le, entre guillemets, père de la Renaissance de San Francisco, ce mouvement des années 1940-1950, qui accueillit la beat génération, hein, Kerouac, Ginsberg, sur la côte ouest. C'est un livre qui est tout à fait remarquable, d'abord par la présentation. Petit livre à l'italienne, où il y a, dans un sens, il y a la version américaine. Dans l'autre sens, quand on retourne le livre, il y a la traduction française, belle traduction. Et il y a une bonne explication, je dirais, entre guillemets, du livre, c'est-à-dire une postface du traducteur sur la vraie vie de Marie Chicot, qui est vraiment intéressante. Et puis, également, des explications sur ce que signifie cette œuvre de Kenneth Rexroth, excusez-moi, Rexroth, où il dit « Marie Chicot est le nom de plume d'une jeune contemporaine qui vit non loin du temple de Marichiten, Kyoto. Marichiten est une déesse indienne, pré-arienne de l'aube, Bodhisattva pour les bouddhistes, protectrice des geishas, des prostituées, des femmes en couche et des amants, ainsi que sous une autre apparence des samouraïs d'autrefois. Au Japon, il existe peu de temples, de sanctuaires ou même d'effigies qui lui soient dédiées. Toutefois, sa présence est indiquée par des statues, souvent en avenue comme les sphinx, de sangliers qui tirent aussi son char. Elle possède trois visages, celui de la compassion, le face, celui d'une truie sur un des côtés, et celui d'une femme en extase sur l'autre côté. » Voilà. Donc une œuvre qui est tout à fait originale, d'une modernité absolue. Hein. Le traducteur dit que dans cette suite de 60 versets qui sont liés, qu'il prétendait être la traduction de superbes pièces composée par une jeune japonaise à connaissance, Kenneth Rexroth a tendu à ses lecteurs un piège aussi inattendu que malicieux. Sans doute les notes rédigées par le pseudo-traducteur, puisqu'il explique tout ce qui pourrait poser problème d'obscurcissement dans ses textes, donc un certain nombre d'informations exactes et utiles au lecteur à qui la culture japonaise et les images religieuses du bouddhisme ne sont pas nécessairement familières, dont tout est expliqué, et c'est d'une lecture donc tout à fait facilitée. Un court extrait, interminable la nuit pour qui ne dort pas, interminable la route pour qui est là de marcher, interminable la vie pour une femme que la passion a rendue folle. Pourquoi ai-je croisé un guide de retour sur les sentiers tortueux de l'amour? Cette chair que tu as aimée est fragile, instable par nature comme un bateau à la dérive. Les feux des pêcheurs de cormorans flambent dans la nuit, mon cœur flambe de souffrir ce martyr. Comprends-tu? Ma vie s'en va. Comprends-tu? Ma vie. Disparaissant comme les piquets qui retiennent les filets de pêche contre le courant dans la rivière Uji, le courant et le brouillard me prennent. Nuit sans fin, solitude. Le vent a plaqué une feuille d'érable contre le soji. J'attends comme aux anciens jours, dans notre lieu secret sous la pleine lune. Les derniers grillons chantent. J'ai retrouvé tes anciennes lettres d'amour pleines de poèmes que tu ne publiais jamais. Quelle importance, ils n'étaient que pour moi. Voilà les poèmes d'amour de Marie Chicot que je conseille vivement de lire aux éditions Poepsie. Et je crois que, oui, 12 euros le petit volume, mais c'est vraiment très beau et bien entendu aussi très très bien illustré. J'espère en reparler dans les semaines qui viennent parce que vraiment, je crois que c'est une publication qui demande vraiment que l'on en parle. Voilà, alors, Louis Dubost, on va demander à l'ami Georges Catelot. Alors Georges Catelot, on va quand même le présenter très brièvement, qui a publié beaucoup de livres, dont le dernier simplement, Bestiolerie poétique, ça c'est un rapport avec cette émission de ce soir, au carnet du dessert de lune, hein, ces éditions, ça a été publié en 2015, avec une préface de Louis Dubost,
et bien voilà.
Voilà, et 8 illustrations de Claudine Goux, 76 pages, 12 euros, Ce sont des aphorismes et formes brèves dont nous allons parler, voilà. Et puis, tout de même, puisqu'on est à Toulouse, on va parler de Brèves d'Ovalie, troisième mi-temps, hein, c'est Chifflet et compagnie.
Et qui est épuisé.
C'est épuisé, c'est en collaboration avec Laurent Gallès, avec une préface de Fabien Pelousse. Et puis, les derniers, quand même, près des yeux, près du cœur, aux éditions La Renarde Rouge, avec 9 illustrations d'Evelyne Bouvier. Voilà. Et puis, La Feuillée des mots, à ces petites éditions Henri, qui fait là aussi très beau travail d'édition, ces éditions Henri. Et alors là, c'est des textes qui sont dédiés à à ces drôles de bestioles que sont les poètes. Ouais. Hein, La Feuillée des mots, édition Henri, 8 euros.
Disons voilà. Un bonjour à l'ami Louis qui est quelque part en Vendée là-bas.
Oui.
Comment vas-tu?
Je vais. Oui, je ne sais pas où, mais je vais.
D'accord. Bon, alors oui, Christian vient d'évoquer les bestioleries poétiques.
Oui.
Certains contes, et où tu as eu la bienveillance et la gentillesse de m'accorder une préface généreuse. Et évidemment, à charge de revanche, quand tu as présenté ton dernier livre, La bestiolerie potagère, je me suis fendu également d'une préface. Ce n'est pas des échanges de bons services, mais c'est au nom d'une amitié, allez, on va dire, de plus de 30 ans, n'est-ce pas?
Oui,
puisque dans une vie antérieure, alors bon, on va pas voir si tu rougis à distance, on va pas dire ta date de naissance non plus, sachant que tu as enseigné jusqu'en fin 2005 la philosophie à La Roche-sur-Yon, et surtout tu as exercé une activité d'éditeur très très intense à l'enseigne du Des Bleus, le célèbre Des Bleus de 1974 à 2009.
Oui.
Et bon, veux-tu donner quelques noms de gens que tu as découverts? On pourrait parler de Autain Grenier, Godot, etc. Jean-Claude Martin, vas-y.
Oui, mais oui, j'ai eu la réputation d'être un découvreur.
Oui.
Mais j'ai aussi édité des gens qui étaient déjà découverts avant moi. Oui. Tu viens de citer Godot, par exemple.
Oui.
Qui avait un livre chez Gallimard. Mmh. Il se trouve que Godot, je l'ai rencontré grâce à François de Cornière à Caen. Mmh. Et on a sympathisé tout de suite et j'ai publié tous ces livres, donc grosso modo de 1985 jusqu'à sa mort.
Mmh. Oui.
J'ai fait 6 livres de Godot. Mmh. Mais c'est vrai que je me suis intéressé aux écritures émergentes, comme on dit.
Mmh.
Je crois même avoir fait un... dans mes herbes folles, un catalogue. Hein,
oui, il y a bien longtemps.
Il y a même un catalogue.
Qui s'intitulait Ligue de rupture à l'époque.
Voilà.
Tu n'étais pas encore installé dans Vendée, hein. Tu étais en Bourgogne, non?
Oui, c'est tout à fait au début, c'était dans la préhistoire des éditions.
Et Christian, tout à l'heure, a évoqué Pascal Comer, dont tu as publié la vache automatique.
Oui, la vache automatique, oui. Et puis j'en ai fait un deuxième plus tard, lorsqu'il est venu en résidence dans l'Ouest. Alors pour citer ceux dont je suis pas trop mécontent d'avoir donné à lire, Valérie Rougeau.
Oui.
Moi je crois que c'est celle que tout le monde cite parce que effectivement Valérie Rougeau, c'est elle qui m'a un petit peu désigné comme le poète, l'éditeur qui devait la faire découvrir quoi, avec son livre qui est devenu un best-seller puisqu'il est, je vais pas retrouver le titre.
Moi non plus, je n'ai pas en tête. Mais bon, disons que il y a Valérie Rougeau, mais il y a aussi beaucoup de jeunes poètes qui ont fait leur chemin depuis, dont tu as publié les premiers
livres. Les premiers livres. Mais écoute, c'est un petit peu la fonction d'un éditeur, ça.
Ceci dit, on va pas revenir sur cette vie, que ce soit en tant que professeur, qu'éditeur, tout ça, parce que ça cacherait l'arbre qui cache la forêt du poète Louis Dubost, et souvent souvent les éditeurs qui ont plusieurs casquettes comme toi, on aurait tendance à oublier un petit peu qu'ils sont poètes et leur discrétion fait qu'ils sont un petit peu dans l'ombre. Et c'est un peu dommage parce que tu as commencé à publier dans les années 70 chez Chambellan, chez notre ami commun qui s'appelait Christian Da Silva,
voilà, oui.
À Vertical 12 en 72, chez Edmond Thomas bien sûr, ensuite chez Solaire, et donc on aurait tendance à oublier que tu as une œuvre importante qui a été reprise au Castor Astral également. À Tarabuste, où un excellent éditeur que nous recommandons vivement. Je vois Christian qui opine du chef.
Je voudrais dire que les éditions du Desbleux constituent une grande partie d'une étagère de ma bibliothèque. et donc, c'est quand même assez impressionnant comme volume.
J'ai fait 452 titres, je crois.
452.
Oui, voilà. Ça en comptant les petits opuscules, tout. Hein.
Oui,
ça fait un beau catalogue.
Oui, ça fait un très beau catalogue. Et souvent, quand je reçois des invités, beaucoup et ont publié, je pense à J'aime Sacré, par exemple,
derniers.
Il y a déjà deux livres chez le Desbleux, quoi. Hein.
De J'aime Sacré.
Oui.
Il y en a cinq, je crois.
Oui.
Oui. Mais les deux derniers sont les plus importants, c'est vrai, oui.
Oui, et c'est dommage qu'on oublie un petit peu le poète Louis. Bon, la fréquentation.
Non, mais je crois que la réponse a été donnée, si tu veux, Georges, là.
Oui.
Moi, quand j'ai rencontré Godot, quand j'ai rencontré Jean Sacré, c'était à peu près à la même époque, dans les années 80. Puisque Jean Sacré avait sa famille en Vendée, il vivait aux États-Unis, et moi j'avais lu des poèmes de lui dans Traces, tu te souviens, Traces de Labor. Hein, et j'ai pris contact avec Sacré. Quand tu rencontres des gens comme ça et que tu lis ce qu'ils écrivent, et quand tu relis ce que tu as écrit, tu te dis il y a quand même une différence qui fait que et c'est comme ça que je suis un peu venu éditeur à plein temps, enfin à plein temps, disons un peu professionnel, c'est que ce que j'écrivais ne me convenait plus, ne me convenait pas, et j'ai préféré donner mon temps et travailler à faire connaître ceux que j'admirais, si tu veux.
Oui, ça, il faut bien savoir.
Enfin, bon, c'est Gers qui m'avait dit d'ailleurs, il m'avait dit, c'est le danger qui vous guette, ça, être éditeur, on oublie sa propre œuvre. Mais je l'ai accepté, je l'ai voulu, si tu veux.
Il faut savoir, bon, Christian l'a rappelé, qu'il y a quand même des dizaines et des centaines de personnes qui respectent le travail remarquable que tu faisais, puisqu'on n'imagine pas l'investissement que cela demande.
Ah, ben c'est un travail, entre guillemets, à plein temps.
Oui.
Maintenant, il s'agit de définir ce qu'on appelle le plein temps.
Voilà. Ceci dit, tu as pris double retraite, et on va venir...
J'ai pas de double retraite, justement. Il y a eu double boulot, mais
double boulot, voilà, de prof de philo et d'éditeur. Tu as tourné ces deux pages, et tu te tournes un peu à la manière de Montaigne ou d'un sage vers le jardinage, vers la terre nourricière. Hein, je sais pas quel temps il fait en Vendée, mais
c'est... Mais écoute, aujourd'hui, il a fait beau. Il n'a pas eu de pluie, c'est quand même un événement.
Et les escargots dont tu es si friand là, ravagent comme les hooligans ton jardin.
Oui. C'est des voyous.
C'est des voyous.
Bon. C'est des voyous. Je crois que ça doit être des escargots anglais, il me semble.
Si vous le permettez, moi je voudrais revenir sur une chose quand même. Les éditeurs poètes, hein. Je pense à Guy Lévis-Manon.
Oui.
Qui a fait un travail fabuleux.
C'est
quand même,
fabuleux.
C'est un excellent poète.
Et quand on lit quand même Guy Lévis-Manon, c'est un excellent poète.
Ah oui, oui.
Hein.
Oui,
c'est un poète qui doit compter dans la poésie du XXe siècle. Il ne faut pas l'oublier.
Et pas loin de chez vous, vous aviez aussi Gaston Puel.
Ah ben voilà.
Qui était éditeur La Fenêtre Ardente.
Oui. Allez, on va, puisque tu cites Gaston, on va sauter du coq à l'âne. J'ai sous les mains un livre qui s'intitule Au feu, édité au Desbleux, je ne sais pas si tu connais.
Oui.
Il y a, page 68, un poème qui s'intitule Aux ormeaux et qui est dédié à deux personnages, je vois Louis Dubost et Georges Catalan.
Ah, c'est formidable.
Oui, je l'ai pris parce que, bon, notre ami Gaston, décédé il y a 3 ans, nous avait dédié ce poème parce qu'il savait notre amour de la nature et notre désespoir face à la maladie qui frappait les ormeaux par ici. Il y en a quasiment plus dans notre Lauragais, voilà. Bon, je pense que je peux commencer par lire ce poème de Gaston.
Voilà,
après, on va attaquer les poèmes de Diogène au potager et de la bestiolerie potagère. Alors, ce poème de Gaston Puet s'intitule « Aux ormeaux ». Vous étiez de grands enfants, câlinés par la terre et le ciel. Vous bourdonniez dans la nuit comme un essaim de graines. Je buvais sous vos corbeilles les vents à la fontaine. Hier, frères lumineux, ardents sous les étoiles, maintenant charbonneux, charpentes effondrées des orages. Vos squelettes délabrent l'horizon, votre bois craque dans mes os. Ormes, ormeaux, ormerés, mots bannis à l'oubli dédié. Là-bas, l'air affûte de bleu les dents d'acier de nos montagnes. Les pures heureuses d'un ailleurs nous revient en épieux. De vos fûts calcinés, la neige tombe en cendres. Voilà, c'était pour ouvrir cette lecture qui va suivre. Alors,
de Gaston Puel.
De Gaston Puel. Alors, restons dans le domaine.
Est-ce qu'on peut demander à Louis Dubos de lire un de ses textes, quand même
inédit.
Voilà.
Je ne suis pas un grand lecteur.
Mais tout le monde est lecteur. C'est ce que répond Philippe Berthaud. On lui dit, mais je ne sais pas. Quand on lui dit, je ne sais pas lire la poésie, mais tout le monde lit. Et les auteurs, je crois que c'est toujours intéressant de voir comment un auteur lit son texte aussi.
Oui. Donc je vous lis quoi ? Un extrait de La Bestiolerie ?
Ou éventuellement.
Ou des inédits, parce que là j'en ai quelques-uns.
Ou un inédit. Oui. Alors les inédits, je les prends sous la main. Si, je vais vous lire un inédit qui appartient à l'ensemble des poèmes d'où sont extraits les bestioles, puisque l'ensemble s'appelle Diogène ou La tête entre les genoux. Et c'est un texte tout à fait d'actualité, puisque on y parle de la météo. Donc je peux le lire ?
Oui, absolument, on vous écoute.
Si la météo était une science exacte, ça se saurait. Et on pourrait considérer avec Emmanuel Kant que son concept est quasi transcendantal. Sachant que l'a priori structure l'a posteriori, ces prévisions seraient objectives à la grande satisfaction du jardinier qui s'applique à rendre possible la gestion raisonnée des semis pour une récolte satisfaisante. Or, chacun le sait trop, il n'en est rien. Et le jardinier louvoie comme il peut en traverse inopinée et sécheresse importune. L'hiver qui joue les prolongations en Vendée et le printemps qui flirte avec les ours blancs du cercle arctique. Noël au balcon et Pâques au tison. Est-ce le ciel qui nous tombe sur le ciboulot ou bien le monde et ce que nous en avons fait qui marche sur la tête? Pourtant, chaque jour, les deux pieds dans la terre, le jardinier s'ingénie à faire face à la contingence imprévisible avec la vaillance entêtée des naufragés de l'empirique. Voilà.
Et puis on va enchaîner avec d'autres textes. Extrait de Diogène au potager, qui est paru en 2011 chez le même éditeur.
Oui.
Les carnets du dessert de lune à Bruxelles, chez l'ami Jean-Louis Massot. Texte certain que l'on retrouve dans la bestiolerie potagère qui vient de paraître avec des illustrations adéquates de Bernadette Gervais.
Voilà. Magnifique. Voilà.
Alors on verra que le rapport de la sagesse du poète qui va jardiner dans son potager ou tout ça, il y a quand même des petits clins d'œil avec le monde de la poésie. On laisse les auditeurs trouver les énigmes s'il y en a. Les abeilles à la mi-juin vrombissent dans le tilleul. À qui mieux les avettes pillotent, comme les appelait Ronsard, et transportent le pollen, fabriquent le nectar, font miel de la vie en fleurs. Et pourvu que ça dure. En effet, comment ne pas songer à la malédiction d'Albert Einstein, pronostiquant la disparition de l'homme 5 années seulement après celle de l'abeille. Un autre texte qui fait allusion à un événement parisien qui s'est déroulé ces temps-ci. Le pourpier. Au départ, ça n'a que peu de rapport avec le monde de la poésie, mais... Le pourpier. Le pourpier, cette engeance prend ses aises après la mi-juin, occupe planches et allées, difficile de s'en débarrasser, un peu comme les rimailleurs de la place Saint-Sulpice. Certains le mangent en salade, il aurait un goût de noisette. Quant à moi, il me les casse.
Alors, on va s'arrêter là deux secondes pour bien expliquer aux auditeurs d'abord ce qui se passe à la place Saint-Sulpice.
Oui, hein, c'est le marché de la poésie annuel
qui a lieu tous les ans. Et puis Diogène, c'est Diogène. Quand même, c'est aussi l'impertinence, hein, ôte-toi de mon soleil,
disait-il hein. À Alexis.
Alors, est-ce qu'il y a aussi le côté chez Diogène, c'est l'indépendance absolue? Est-ce que là, il y a le poète, est-ce que c'est Diogène le poète?
Réponse de l'intéressé.
Diogène, pour moi, vous savez que j'ai fait des études de philosophie, j'ai enseigné, et pour moi, Diogène a toujours été un peu une énigme, dans la mesure où c'est un personnage qui est assez inclassable. Et pour moi, il est un petit peu à la fois le poète, justement, dans la mesure où il profère des textes, vous en avez cité une citation, vous avez fait une citation là, des textes qui sont eux aussi inclassables, ou du moins un petit peu, comment dirais-je, en dissidence par rapport à l'ordre établi. Et c'est un philosophe aussi qui s'en est pris à ses collègues philosophes de l'époque, notamment Platon, et finalement, ce personnage, moi, m'a intéressé dès mes études à l'université. J'aurais voulu faire même un mémoire de maîtrise sur les cyniques et Diogène, et j'en ai été dissuadé parce que je connaissais pas assez le grec pour pouvoir travailler sur les textes. Et moi, ça m'a toujours, j'ai toujours ressenti une certaine frustration. Et depuis que je suis dans mon jardin, qui est plutôt, lui, une référence à Épicure, le jardin d'Épicure, eh bien, c'est Diogène qui est venu me visiter avec son tonneau, avec ses questions, et moi, j'essaie de transmettre un petit peu tout ça, mettre un peu de questions dans cet enclos qui, en fait, est mon jardin, mais qui n'est pas clos sur le monde. C'est quelque chose qui est ouvert sur le monde. C'est un petit peu ce que chaque philosophe fait, chaque poète fait, avec son travail qui est certes très personnel pour lui, mais qui s'offre, qui s'ouvre au monde, aux autres.
Oui.
Et voilà ce que je peux dire.
Et il y a bien sûr toujours, même quand tu es dans ton jardin, des références permanentes à la poésie et à la philosophie. Là, j'ai sous les yeux de texte un extrait de La bestiolerie potagère, donc qui vient de sortir cette année. Et peut-être si Christian autorise, on peut le lire. Non. Un qui s'intitule Le crapaud.
Oui, oui.
Le crapaud. Le crapaud n'est pas seulement pour la crapaude, comme ironisait méchamment Voltaire. Clown honteux, pâteux et pustuleux, il fait écho et donne sens à l'amour du prochain. Le jardinier, mémoire rageuse et gorge nouée, se rappelle l'apostrophe désespérée. Heureux crapaud, tu n'as pas d'étoile jaune, du poète Max Jacob, mort à Drancy, dans un jardin barbare cerné de barbelés. Voilà, toute là. Voilà. Et alors, il y en a un autre que je pourrais, qui est peut-être d'actualité, qui s'intitule, la prise d'un Diogène dont on parlait au potager, qui s'intitule Le Tamier. Alors, pour les gens du Midi, comme plus connu sous le nom de Responsou. Le Responsou dans la région tarnaise, variégeoise aussi, non, du côté christien. Voilà. C'est une plante assez spéciale, qu'on appelait, surnommée l'herbe aux femmes battues, entre autres. On appelait aussi asperge sauvage par ici, mais qui a que peu de rapport. Hein. Et donc, on verra que le rapport, là aussi, à l'actualité ou à la poésie, existe avec ce pauvre tamier. Le tamier. Le tamier, vraiment pas désiré dans le potager, il se glisse en douce sous les noisetiers. On appliquait naguère cette herbe aux femmes battues sur les plaies des victimes de violences. Femmes, enfants, voire manifestants matraqués par les CRS. Pas sûr qu'elle remédie pour autant aux affres d'un égo de politicien étrié aux élections, ou bien d'un poète recalé par un éditeur. Voilà, Louis Dubost. Avec un clin d'œil et un sourire, bien sûr.
Oui.
Alors, Georges, c'est toi qui a fait la préface.
Oui.
La bestiolerie
potagère.
Est-ce que tu peux nous donner un extrait?
Oui, pourquoi pas. Allez, allons-y. Peut-être que lui a envie de lire quelque chose qu'il a sous la main. Non.
Mais après, t'as
après. D'accord, allez, bon, quelques extraits. Donc, intitulé « Le jardinier des mots ». Le jardinier des mots. C'est avec les coccinelles, les abeilles et les lombrics que Louis Dubost a conclu un pacte bienveillant, tout en engageant une lutte sans merci envers quelques autres insectes ravageurs en diable, étranges créatures au nom barbare, zezères, cire, feu et autres strips. Lui, Louis Dubost, le paisible poète jardinier, sait de quoi il retourne avec l'agent parasitaire. En effet, en tant qu'éditeur, il dut lutter durant de longues années contre l'envahissement des poètes mégalomanes qui venaient le harceler avec leurs zèbres impérissables jusque dans son jardin. Petit rappel, dans une vie antérieure, Louis Dubost fut simultanément éditeur à plein temps, poète à temps partiel, professeur à temps professionnel, philosophe à temps perdu, élu local à temps difficile et tant d'autres temps intimes et familiaux. Alors, après toutes ces aventures et mésaventures, on devine aisément que ce paisible Diogène vendéen ait souhaité consacrer le plus clair de son temps à des tâches jardinières. Voilà un extrait. Bon, après, il y a peut-être deux citations où j'évoque un moment. Oui, avec lui, pas question de faire chou blanc ou de se retrouver dans les choux faciles. Sauf peut-être pour souhaiter une fin envisagée par Montaigne, qui disait « Je veux que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle, et encore plus de mon jardin imparfait. » Oui, pourquoi pas, mais alors fixons-en le rendez-vous le plus tard possible, à moins que la fin du monde n'arrive entre-temps. Mais là aussi, on peut poursuivre en imitant Martin Luther, qui disait « Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. » Voilà. Quelques extraits de la préface de ce livre qui s'intitule, je le rappelle, mais Christian le rappellera, Bestiolerie potagère, paru aux éditions des Carnets du dessert de lune, mais disponible dans toutes les bonnes librairies ou en commande.
Alors on va continuer par lecture d'extraits. Peut-être que Louis Dubost veut bien nous lire un nouveau extrait de ce dernier recueil.
Du dernier ?
Oui, oh, je donne, oui, enfin...
Non, oui, ce que je pourrais faire ensuite, oui, c'est et peut-être resituer ce livre dans l'ensemble du travail d'écriture, de ce que j'appelle l'écriture potagère. Mais je vais vous lire les chenilles du chou, là. donc qui est tiré de la bestiolerie. Les chenilles du chou ne supportent pas, selon Bolos, un philosophe démocritéen, la foulée d'une jeune femme nue au temps de ses règles. L'image n'est pas déplaisante, qui métamorphose le paisible potager en gynécée phytosanitaire. Cependant, sans que l'on s'enhardisse pour autant à mettre en doute le sage propos du philosophe, l'effet escompté sur les chenilles paraît fort aléatoire, quoique davantage plausible sur le tropisme érectile du jardinier. Qu'en pense le chou ?
Il y a toujours un clin d'œil, il y a toujours des allusions. Tu as un autre sur un an sous la main, ou peut-être des inédits ?
Des inédits ?
Oui, si, éventuellement.
Voilà. Alors, ce que je pourrais lire, c'est le texte introductif du manuscrit, donc « La tête entre les genoux », d'où sont tirés ces textes sur les bestioles. Le texte introductif... Disons, situe un petit peu le travail, quoi, le travail d'écriture qui s'est fait.
Voilà, ok.
Je vous le lis ?
Oui, bien sûr.
À propos de jardin, sur le modèle de la poésie chez Platon, dont le mot désigne un genre entier, la production générale, qui est définie ainsi, tout ce qui cause du passage du non-être vers l'être, pour quoi que ce soit. En même temps qu'une production très particulière, celle des poètes, j'userai de même avec le mot potager, employé ici pour le genre et l'espèce de façon aléatoire. L'espèce de jardin d'en bas, allusion à une célèbre raffarinade, domaine de la production utile dans un enclos à l'écart, côtoie le jardin d'en haut, domaine ouvert de l'agréable, qui accueille avec des fleurs et embellit la maison. Dans la famille paysanne, ce dernier est tacitement dévolu à la bourgeoise. C'est ainsi qu'avec une tendresse bourrue, on surnommait l'épouse. Alors que le potager constitue le prolongement des champs et des terres travaillés par l'époux. Même si aujourd'hui l'opposition n'est plus aussi radicale, des légumes sont implantés dans les parterres d'accueil et des fleurs sans canaille dans les carrés de légumes. Je garde cependant la conviction, sans prétendre au monopole du discernement, que la lutte des classes traverse le jardin. Le potager demeure un jardin ouvrier, qu'il soit ou non qualifié de partagé ou de solidaire de nos jours. Tandis que les parcs et jardins autour des châteaux et des logis bourgeois s'affichent encore comme l'aristocratie du jardinage. Le jardin est donc socialement situé, tout en manifestant une porosité flagrante avec des aspirations éco-citoyennes de notre époque. Bien des jardiniers, qu'ils soient d'en bas ou d'en haut, à main nue ou avec des gants, s'engage dans le combat pour la sauvegarde de la biodiversité face aux OGM, par exemple. Ce sont en quelque sorte les anarchistes d'aujourd'hui qui répondent à l'ironique définition proposée par Philippe Bouin. L'anarchie moderne, c'est aller sentir une fleur dans un champ quand d'autres la regardent sur Internet. Voilà. Donc, vous voyez, le jardinier en tant qu'anarchiste, c'est Diogène, si vous voulez.
C'est une sacrée leçon de choses. J'ai sous les yeux un livre qui, je pense, est épuisé, tu ne peux nous le dire, et réédité à la Bartavel, c'était la troisième ou quatrième édition, qui s'intitule « La vie, voilà ».
Oui, oui.
Et c'est épuisé, non ?
Ben, c'est épuisé, la Bartavel ayant disparu,
d'accord.
Il ne reste que les exemplaires en ma possession, il m'en reste, je sais pas, une centaine peut-être,
et
je distribue généreusement à qui les demande.
Et ce serait pas malvenu qu'on redécouvre une autre facette de Louis Dubos, parce que là on s'est focalisé sur le rapport à la terre et au monde végétal et animal, Mais j'ai sous les yeux des textes qui datent de 1978, qui n'ont pas pris une ride, et ça s'intitule « Leçon de choses », si l'ami Christian veut bien qu'on... Et là, on verra, là aussi, il y a toujours une référence très forte à la nature, mais également au monde de la poésie. Voilà quelques extraits, ce sont de brefs poèmes. « Leçon de choses ». En cette année, j'ai envie de lumière dure, afin que grandisse le courage et ses désordres. J'écris, coagulant la langue, la foi, le doute, à la façon des poètes. Telle est la fougueuse angoisse. Les trajectoires démultiplient les aiguillages. La nuit, oiseau de fumée, détourne le ciel sur des ailes pirates. À cause de ce jour plongé dans un bain d'acide, la parole est trouée. Les mots fusent comme des petites flammes bleues. Le ciel clignote alors, simplement multiple. Le monde se lève, bleu visage frais, les yeux mi-clos. Le monde est beau, écrivait Yanis Ritsos dans sa prison. La vie me jette à la fenêtre. Suivez l'homme, il marche en suçant certains mots. Dans sa poche, un autre plus rond a calé sous la langue pour parler bref. Bonjour, direz-vous.
On a parlé beaucoup d'anarchiste, Diogène, Louis Dubost. Et tout à l'heure, dans ma présentation avec Kenneth Rexroth, c'est aussi un libertaire, libertaire pacifique, qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais d'une façon générale, c'est un petit peu au poète philosophe que je m'adresse. Est-ce que la poésie est un humanisme?
Bonne question. Alors, avant de vous répondre, j'ai été ému tout à l'heure de vous entendre parler de Kenneth Rexroth. Dans la mesure où un excellent numéro de Plein Champ a été publié il y a bien une dizaine ou une quinzaine d'années par Edmond Thomas. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce numéro de Plein Champ.
Oui, Edmond Thomas.
Oui. Non, oui. Mais ce numéro, oui, il y a bien plus de 10 ans, oui.
Ah oui, il y a plus de 10 ans. Hein.
Il y a plus de 10 ans.
Et c'est comme ça que j'ai connu ce poète américain et je fréquente ce genre d'individu. Enfin, quand je dis je fréquente, par la lecture, évidemment. Comme j'ai découvert il y a une dizaine d'années aussi Pierre Rabhi en France. Et Jean-Marie Pelt, qui ont parlé les premiers et mis en œuvre surtout ce qu'on appelle l'agroécologie. Et ce sont des thèmes, moi, qui m'ont toujours intéressé, dans la mesure où, fils de paysan, je sais bien où se trouve l'homme. L'homme, il n'est pas dans des idées, il n'est pas dans des fantasmes, il est au ras du sol, les deux pieds dans la terre, et pour ne pas dire autre chose, dans le fumier parfois, et il faut que il fasse quelque chose de cette durée qui le sépare, cette durée qui s'installe entre deux néants, ce qu'il y a avant sa naissance, donc l'histoire, et ce qu'il y a après sa mort, c'est-à-dire le futur, l'avenir. Donc quelque chose qu'il doit transmettre à ceux qui suivent. Et c'est une réflexion qui a toujours été la mienne, et qui est devenue peut-être un peu plus insistante depuis que j'ai pris de l'âge, comme vous dites. D'ailleurs, je me suis mis à écrire depuis le début de l'année une série de poèmes, non pas sur la mort, même si ça en parle beaucoup, mais plutôt sur le mourir. Moi, pour moi, la mort n'est pas un problème. Elle n'est pas un problème, je suis assez épicurien sur cette question. En revanche, ce qui me gêne quelque part, c'est le fait de mourir. Autrement dit, de cesser de vivre. C'est de ne plus vivre qui m'interroge. Donc, pour répondre à la question, moi, je pense que la poésie, la philosophie sont inséparables d'un certain humanisme. puisque c'est quand même tout l'homme qui est au centre de ce travail de création d'abord. Il faut que l'homme s'invente chaque jour, de même que le jardin, si vous voulez, invente aussi le jardinier un peu tous les jours. Hein, on n'est pas là formaté une fois pour toutes. On doit se transformer en permanence. C'est ce que j'appelle vivre. Moi, c'est comme la respiration qui fait bouger les poumons. Je ne vois pas que répondre d'autre, sinon que là où il y a l'homme, il y a l'humanisme. Le problème aujourd'hui, c'est que d'autres priorités que l'homme semblent être le souci de certains hommes. C'est ça qui est davantage préoccupant.
D'où l'importance du jardinier et de la philosophie qu'il y a derrière. Et on pourrait en revenir à une phrase assez connue de Ronsard sur le cycle des saisons, qui quand il évoquait, il disait « Telle fleurit aujourd'hui, qui demain flétrira.
Voilà, »
Et
oui. «
Telle flétrit aujourd'hui, qui demain fleurira.
Voilà, »
Donc,
oui.
Sur ce cycle-là, il y a une espèce de sagesse, on fait ce qu'on veut, mais c'est quelque chose qui remet les choses à leur place.
Complètement.
Oui, c'est le grain de blé qui doit périr pour que
et puis ça
puisse se régénérer.
Hein. Oui, moi la plus belle des métaphores aussi de la vie et de la vie de l'histoire aussi, c'est le compost.
Oui.
Dans le compost, vous y mettez tout le rebut. Tout ce qui dont on n'a plus besoin, qui est les déchets, les détritus, et tout ça, ça fabrique de la vie, ça fabrique de la terre, sur laquelle on peut justement semer. Hein, le compost, à mon avis, est une belle métaphore de ce travail philosophique justement, et bien sûr poétique, qui consiste à inventer sa propre vie, et puis inventer une vie, disons, supportable pour les autres. Ou du moins, leur dire, ben voilà ce que je vous propose, faites-en ce que vous voulez, vous. Puisque chacun, quand même, est libre de choisir. Mais il n'est pas interdit à ceux qui, entre guillemets, ont vécu, de donner quelques pistes de vivre à ceux qui vont vivre. Me semble-t-il.
Et le dur désir de durer, c'est quelque chose que vous sentez profondément aussi ?
Ben, le dur désir de durer, tout dépend comment on prend l'expression. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Je suis très conscient, de la mortalité. Hein, d'ailleurs, c'est la vie qui donne son sens. C'est la mort qui donne son sens à la vie. Si les gens étaient immortels, mais ça serait insupportable. Ça serait invivable. Invivable, justement. Hein. L'immortalité est invivable. Et ça m'agace beaucoup de voir tous ces gens qui veulent plus mourir maintenant, ou qui refusent de vieillir, hein, avec tous ces artifices et ces choses ridicules, dérisoires. Non, le dur désir de durer, ça ne peut se réaliser que dans ce que nous laisserons. Et ce que nous laisserons, ce sont des poèmes, ce sont des livres. De ces poèmes et de ces livres, il pourra rester peut-être quelques lignes, un mot, je ne sais pas. Pour prendre un exemple et revenir un petit peu au point de départ de notre rencontre, le mot bestiolerie, moi, que j'aime beaucoup, je l'ai emprunté à Rutebeuf. Rutebeuf, qui, ça fait presque 900 ans, nous parlait déjà de tout ce que nous avons parlé ce soir, et de bien d'autres choses. Donc, c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est le dur désir de durer, c'est laisser une trace pour ceux qui sauront, disons, la découvrir plus tard. Et puis, après tout, Moi, je me limiterai bien, disons, à la fonction du compost. C'est-à-dire que le compost vous transforme et vous revivez autrement. Enfin, vous assurez, vous êtes partie prenante de ce qui survit, de ce qui vit après vous. Je ne sais plus trop que vous dire sur cette question.
C'est la différence entre l'immortalité, qui est insupportable, hein, d'après ce que vous avez dit,
oui,
et l'éternité.
Ben, l'éternité ne concerne pas les hommes.
Ouais, voilà.
Hein, l'éternité ne concerne pas les hommes. L'éternité, c'est tout ce qui est hors du temps.
Ouais.
Or, l'homme, il est temporel. Ouais.
Hein? Mais son œuvre peut être...
Rester après lui, quoi.
D'ouvrir la voie d'une certaine éternité.
Éternité, ça me gêne, moi. Parce que l'éternité, c'est pour les animaux ou les dieux. L'homme n'est ni l'un ni l'autre. Son œuvre peut être immortelle, mais je ne pense... Enfin, je ne sais pas. Ça voudrait dire qu'elle serait hors du temps.
Oui, mais vous parlez de Rudebeuf, par exemple. Bon,
mais Rudebeuf...
On parle de lui.
Oui. Mais Rudebeuf, son œuvre n'est pas éternelle, elle est immortelle. Ça veut dire qu'elle est... il nous l'a laissée, et nous la prenons dans ce que nous savons y trouver, nous, aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette œuvre, pour être redécouverte, elle a quand même besoin du temps, de notre temps.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire? Rudebeuf est un poète de notre temps.
Tout à fait.
Après l'avoir été il y a 900 ans. Oui.
Comme François Villon,
voilà, Bernard, voilà.
Aussi, hein, ouais.
Ce sont des gens de notre temps, ça, puisque nous nous reconnaissons en eux. Oui. L'éternité sort du temps, c'est quelque chose de transparent, je sais pas trop ce que c'est. Autant Grigny disait, l'éternité est immutée.
Oui.
Hein?
C'est le titre d'un de ses livres.
Oui.
Il faut rappeler et conseiller à nos auditeurs que tu as été le premier éditeur des Radis Bleus. Tu as pris énormément de risques en publiant ce livre, qui ensuite a été repris chez Gallimard, puisque à l'Arpenteur Gallimard, ils ont ensuite pris le relais du Des Bleus.
Si on peut dire, oui. Il y avait Jean Lemauve aussi qui était son éditeur.
Jean Lemauve aussi,
oui.
Il faisait un travail d'édition artisanale extraordinaire, quand même.
Lemauve ?
Oui.
Oh, magnifique. Magnifique.
Il était aussi poète, et j'ai moi ces textes, et ce sont de
très bons. Oui, c'est toujours
textes.
Sur le jardin, les animaux. Hein,
c'est un paysan, lui.
Oui. Un livre qui s'est intitulé, qui est introuvable, qui s'appelait Terre, un peu comme un appel, comme ça.
Oui, magnifique.
Magnifique.
Très beau, oui.
Donc, qui avait été édité chez Edmond Thomas, je pense. Hein.
Je pense que c'est lui qui l'avait auto-édité avec sa presse. Sa presse à bras, quoi.
On va terminer, si vous voulez bien, puisqu'il reste maintenant 4 minutes. On va terminer sur des textes, hein, sur les lectures de textes. Hein. Je vous propose d'alterner peut-être Georges et vous.
Moi j'aimerais autant que vous lisiez, vous.
Alors, très bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va lire, Georges?
Toujours extrait de... Bon, restez sur une autre guerre, parce que là, on était quand même dans la gravité philosophique, dans la spéculation.
La poésie, c'est très ça, bien. C'est à la fois... Bon, on a perçu... l'ironie,
oui,
hein,
la mise à distance,
l'autodérision, voilà, ça c'est très important. Mais en même temps, ça recouvre aussi peut-être des notions qui sont graves, mais on peut pas éviter cette gravité dans la poésie. Oui. Je ne crois pas qu'on puisse éviter. C'est peut-être tout ça qui fait peur aussi.
Oui, ainsi que de temps en temps, un petit mot grossier. Bon, Brassens était grossier, n'est-ce pas ? N'a jamais été vulgaire. Bon, allez, on va enchaîner avec, pour exemple, le Merle Blanc, par exemple.
Par exemple, oui.
Le Merle Blanc ou l'oiseau rare ? Totalement inaperçu au jardin, on le rencontre de temps en temps dans la poésie. Ainsi, Alfred de Musset a jadis sifflé son mal d'amour sous le balcon d'une merlette frivole durant de longues nuits blanches au mois de mai, d'une plume non moins blanche, alerte et tourmentée. Mais le génie, quoique nombrable sans effort, procède fort peu de la rareté. Et jardiner les mots, les ouvrir et en semer les graines ne suffit pas à fleurir d'un poème les plates-bandes du langage. Là se tient toute la désespérance partagée par le jardinier et le poète. Le savoir-faire virtuose n'y peut rien si l'empathie singulière avec l'universel s'empêtre dans le faubon. Alors, trop souvent, le jardinier, comme le poète raté, au lieu d'avoir la plume au bout des doigts, se la met au derrière pour faire croire à l'oiseau rare, persifle Jean Lancelme, bien cruellement.
Jean Lancelme.
Jean Lancelme, dont on recommande la lecture, ses livres ont paru chez Rougerie.
Rougerie, oui.
Encore un excellent éditeur au service de la poésie. Je pense que certains de ses titres sont disponibles. Jean Lancelme savait mettre à distance, mettre beaucoup d'humour et d'autodérision dans ce qu'il écrivait. Il pouvait écrire des choses très graves. Un autre ? Bon. Bon, peut-être d'actualité, bon, là, n'y voyez pas, ne me prenez pas ombrage. Les prunes. Je ne parle pas des mirabelles, mais des petites bleues noires et des grosses or rougeâtres. Elles me font penser à la CGT, à cause du drapeau dans les manifs, ou peut-être parce que Thibault les prend pour des prunes et baise sans vergogne les camarades prolo. Moi, je préfère les prunes à pleine bouche. En veux-tu ? En voilà.
Merci, oui. Dubost. On va s'arrêter donc sur ce texte. Louis Dubost, merci beaucoup.
Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
Le titre de la dernière publication, donc Louis Dubost, Bestiolerie potagère aux éditions Les Carnets du dessert de lune, et ça vous coûtera 12 euros. Donc, merci beaucoup Louis Dubost.
Bonsoir.
Bonsoir. Louis. Merci Georges.
Merci à vous.
Et Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine. Adicias.
Avec des